Philosophe, la série de France Inter consacrée aux révolutionnaires de la pensée. Vladimir Jankélévitch, toujours en compagnie de la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury. Vladimir Jankélévitch, l'amour et le courage. Cynthia Fleury, Vladimir Jankélévitch était non pas philosophe et résistant, mais c'était un philosophe résistant. Le penseur de l'instant, vous nous le disiez, qui est un appel à l'agir. Agir dans le présent, c'est engager au péril de sa ville, c'est engager dans la clandestinité. On va y venir parce que c'est absolument essentiel pour comprendre sa pensée. Mais pour l'auteur d'un livre, Le Traité des Vertus, qu'il a publié en 1949, il y a deux vertus absolument cardinales, l'amour et le courage. Alors commençons par l'amour, si vous le voulez bien, ça vous fait sourire. L'amour, pour Vladimir Jankélévitch, c'est pas simplement le fait d'être amoureux ou le sentiment amoureux, c'est aussi l'autre nom de la morale. Expliquez-nous.
En fait, l'amour, c'est, on pourrait utiliser un terme de Rilke, c'est l'ouvert.
Le poète, voilà, Rainer Maria Rilke.
Exactement. Et l'amour, c'est l'ouvert, c'est-à-dire c'est ce qui fera définitivement synthèse avec le monde. Alors qu'est-ce que ça veut dire faire synthèse avec le monde? C'est-à-dire que là où il y a l'amour, il y aura toujours la possibilité d'une action, d'un pas de deux, d'une négociation. Il y aura toujours la possibilité d'un engagement. C'est ça que raconte l'amour. Alors que d'autres viendraient dire des principes, des règles, et donc ça fait de la césure, ça coupe, ça termine. Non, l'amour, c'est quelque chose qui fait lien, définitivement. Et bien évidemment que ça ne peut être que la vertu cardinale de l'engagement.
Oui, d'ailleurs, il écrit un traité des vertus, il n'écrit pas un traité des passions, non. Comme d'autres l'ont fait au XVIIe siècle, si l'on pense à Descartes, si l'on pense à Spinoza, si l'on pense à tous ceux qui ont essayé de voir dans les passions quelque chose qu'on subissait, qui était de l'ordre du déraisonnable, contrairement au règne de l'esprit, et dont il fallait apprendre à se libérer ou qu'il fallait surmonter. Lui, il en fait une vertu, et une vertu à prendre au sérieux.
Une vertu à prendre au sérieux. L'architecte, d'une certaine manière, par excellence, de nos manières d'agir. En tout cas, il faudrait. C'est une idée régulatrice. Et donc, c'est très intéressant, parce qu'effectivement, c'est pas du sentimentalisme, si vous voulez. C'est une espèce de verticalité.
C'est pas romantique.
Non, c'est pas romantique. Alors, les romantiques qui adorent Jankélévitch vont dire, mais taisez-vous, bien évidemment qu'il était romantique. Moi, après, vous savez, les auteurs, on les attrape avec aussi ce qu'on est.
Bien sûr.
Donc, n'étant pas la première des romantiques, je l'attrape plutôt du côté de la verticalité de quelqu'un qui, au contraire, avait une vision, si vous voulez, oui, de l'amour au sens de ça bâtit, ça construit là où les autres se défilent. Et d'ailleurs, pareil, si vous voulez, les questions de pureté, d'impureté, qui sont des questions clés chez Jankélévitch. Il a écrit un ouvrage sur le pur, l'impur, etc. Très souvent, si vous demandez comme ça, de manière intuitive aux individus, au fait, de quel côté vous mettez la morale? Côté de la pureté ou de l'impureté? La majorité des gens vont dire, mais la pureté, bien sûr. Et bien évidemment que non. Et c'est du côté de l'impur, parce que ne serait-ce que par le fait que quand il lui-même a été dessaisi de ses fonctions de professeur à cause d'un décret anti-juif, anti-étranger d'abord et anti-juif dans un deuxième temps, il raconte ça dans une correspondance avec Louis Bauduc, son ami, où il dit, on m'a découvert deux grands-parents impurs. Donc voilà, déjà la messe est dite simplement dans ça, c'est-à-dire un être humain qui se découvre deux parents impurs, vous pouvez poser à tout jamais que la morale est du côté des impurs. Voilà, nous sommes des impurs. Les impurs, c'est-à-dire quelque chose qui se mélange, quelque chose qui se transforme, quelque chose qui disparaît, quelque chose qui réapparaît. C'est ça que ça raconte, l'impureté.
Il a consacré de très nombreuses pages à l'amour, au sentiment amoureux, à ce qu'on cherche parfois à expliquer ou même à s'expliquer quand on le ressent. Et il écrit « L'amour n'est pas un apprentissage, Jankélévitch, c'est une rencontre ».
Oui, c'est-à-dire que là aussi, c'est une façon de...
N'importe qui peut comprendre ce qu'est l'amour en un quart de seconde.
Exactement. C'est-à-dire que ce qu'il veut raconter, encore une fois, c'est que si vous voulez attraper l'amour uniquement du côté de la théorie, de ce qui doit être fait, de ce qui doit pas être fait, si vous voulez... rater là, encore une fois, la phénoménalité de l'amour, c'est-à-dire c'est quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui émerge, c'est quelque chose qui produit du réel, c'est-à-dire que avant l'amour, ce réel-là n'existait pas. C'est ça qu'il veut raconter.
C'est ça le coup de foudre ?
Ben, un petit peu, oui, c'est ça. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont vécu un coup de foudre le disent. Ils disent, ben, en fait, c'est quelque chose qui m'a intégralement changé. Et le monde d'avant et le monde d'après, en fait, c'est plus le même monde.
Le propre de l'amour, c'est de ne pas pouvoir expliquer pourquoi on aime. Et de ne même pas le savoir.
Oui.
C'est dans ce mystère, dans cet endroit mystérieux qu'il faut être capable de s'installer.
Oui, oui, c'est totalement antinomique de l'amour version contemporaine, hein, où on est très très fonctionnaliste et on dit non, au contraire, voici les conditions, mes critères pour être amoureux, alors je veux qu'il y ait ceci, 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 cela, ça aurait fait fuir à toutes jambes Jean Kelevitch, il se serait dit mais mon Dieu, c'est le contraire, ça c'est un cahier des charges, c'est fait pour faire du bricolage éventuellement, mais l'amour c'est quelque chose du je ne sais quoi, du domaine du je ne sais quoi.
Si clair que soient les raisons d'aimer, on n'aime jamais que dans la nuit du discours, c'est-à-dire au moment où le silence se fait.
Où les mots ne suffisent pas, où les mots n'ont plus leur place.
Et là, on est de nouveau du côté de l'instant. Il y a l'amour, donc, dans ces deux vertus cardinales, et il y a le courage. Et le courage, c'est absolument indispensable d'en parler pour comprendre Jean Kelevitch. Le courage, c'est la vertu qui rend possible toutes les autres vertus. Le courage suppose d'avoir ce qu'il a appelé l'esprit de sérieux, un certain esprit de sérieux. C'est pas une forme de gravité, c'est une vraie conscience de l'instant et de ce que l'instant exige de nous.
Oui, c'est-à-dire, il le disait, hein, le courage, ça ne vous renvoie pas au sérieux du discours, ça renvoie au sérieux de la temporalité. Alors c'est quoi le sérieux de la temporalité ? C'est ici et maintenant.
Oui.
C'est-à-dire, je ne peux pas me dérober. Et le fait de tout d'un coup produire un discours, c'est une manière de se dérober. Et d'ailleurs, on a souvent narré cette expression où il se moquait d'autres philosophes que je nommerai pas ici.
On peut le faire, Jean-Paul Sartre.
Jean-Paul Sartre, Merleau-Ponty même, bon,
qui étaient ses contemporains qui ont beaucoup écrit sur l'engagement et sur la résistance.
Voilà, et qu'il appelait ceux qui conjuguent le verbe s'engager. Et puis il disait, voilà, non, il y a ceux qui s'engagent. Et à partir du moment où vous engagez, en fait, ça fait discours, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin de produire un discours sur l'engagement qu'on est en train de faire.
Alors ça, c'est assez génial, justement. Il écrit, les gens de 1940 et 44 qui s'engageaient, ils ne parlaient pas de l'engagement, on ne conjugue pas le verbe, ils n'avaient pas le temps, ils le faisaient. En 45, c'est facile de s'engager. Il y a beaucoup de résistants et d'engagés en peau de lapin dans ces années-là qui ne parlaient que de ça. Bon, ça, il l'écrit dans les années 70, mais c'est assez formidable de dire que on ne conjugue pas le verbe s'engager.
Voilà. Et ce qui est merveilleux, c'est que je pense que c'est sa conscience.
On le fait.
Voilà, on le fait. Et je pense que c'est sa conscientisation, si vous voulez, de la circonstance, de ce qui se cache d'important derrière la circonstance, qui lui a donné toute cette capacité de saisir que c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut s'engager, alors que d'autres pourraient dire « mais non, c'est pas maintenant, ça n'a pas de sens, etc. » Mais lui, il a une telle conscientisation du kairos, de l'instant, qui saisit, qui ne pourra plus l'être, que, en fait, c'est ce qui lui a permis, tout d'un coup, d'être véritablement, non pas simplement celui qui décrit une morale, mais celui qui l'a fait.
Le sérieux est certainement l'adjectif qui caractérise le mieux sa philosophie morale et peut-être même sa vie. Cynthia Fleury, lui qui par son statut de juif pendant l'occupation a fait l'épreuve de la clandestinité forcée.
Oui, c'est-à-dire qu'encore une fois, hein, c'est marrant si vous voulez décrire le traité des vertus au moment même où vous êtes confronté à l'effondrement mondial des vertus. Donc c'est, vous voyez, c'est à la fois quelqu'un qui a été au rendez-vous bien sûr de l'écriture, parce que c'est un grand philosophe, et en même temps c'est quelqu'un qui a considéré que philosopher, à un moment donné, c'était pas écrire, c'était s'engager.
Il a été au rendez-vous de l'histoire également, Vladimir Jean Kelevitch, il a été résistant sous plusieurs identités, dont celle d'André Dumez, jusqu'à en perdre l'habitude de son propre nom. C'est extrêmement fort.
Oui, mais parce que je pense que malgré tout, si vous voulez, d'abord, la question de la résistance, et c'est souvent raconté dans la littérature des survivants ou des résistants, etc., c'est que c'est une identité que vous mettez qui est une identité résolument existentielle, parce que vous risquez votre vie chaque jour.
Évidemment.
Vous risquez de mourir sous cette identité. Donc, si vous voulez, bien évidemment que ça vous fait un lien avec cette identité qui n'est pas une identité comme si c'était un petit chapeau qu'on met, qu'on enlève.
C'est oui, mais le paradoxe, Cynthia Fleury, c'est que quand on se dit il a été résistant, on se dit qu'il a été immensément libre. Et lui, justement, quand il quitte le souterrain pour la vie au grand jour, qu'il s'en frotte encore les yeux et les oreilles après la Seconde Guerre mondiale, il n'est pas encore revenu de son émerveillement et il écrit « J'ai un peu perdu l'usage de la liberté, je ne sais plus marcher au milieu du trottoir. »
Ben oui, ce qui est normal, parce que si vous voulez, la liberté c'est plusieurs choses. La liberté c'est quelque chose qui est léger, où on ne se pose pas la question, et puis la liberté c'est faire son devoir. Et donc oui, il s'était dessaisi d'une autre forme de liberté qui est tout aussi existante, hein, donc qui est nécessaire, mais il était devenu le prisonnier d'une certaine idée de la liberté, c'est-à-dire s'engager. Ça raconte encore une fois le paradoxe très très juste de ce qui permet à Jean Kelevitch de dire, ben, vous savez, vous définissez la liberté uniquement de ce côté-ci. Non, la liberté c'est aussi ça, tout dépend de la circonstance.
J'allais justement vous dire qu'il y avait ce paradoxe-là, celui qui veut à la fois écouter de la musique et dont les pas dans la neige sont pour lui une expression magnifique, pas simplement un morceau de musique, mais une expression géniale pour dire le je ne sais quoi et le presque rien. Et d'un autre côté, c'est celui qui nous permet de penser pleinement ce qu'est le courage. C'est un penseur du paradoxe, mais autre paradoxe quand on est résistant, c'est un adversaire farouche de la violence. Comment l'expliquer ?
Ah ben parce que justement, c'est tout le contraire du passage à l'acte. La violence,
comment
c'est...
ça ?
Ben le passage à l'acte, c'est la violence au sens où elle est dessaisie de toute capacité de penser, de toute capacité d'amour, tout simplement. Et quand vous posez l'amour comme principe essentiel de la morale, il est clair que votre théorie de l'action, elle sera toujours rattachée peu ou prou à l'amour. Et donc nécessairement, la violence totalement barbare, ça ne vous parle pas, ça ne raconte pas quelque chose du lien au monde que vous voulez poser.
Il y a quelque chose qu'on lui doit de très important, qui est la notion d'imprescriptible. Jean Kelevitch, c'est un penseur de l'histoire, c'est un penseur de l'engagement dans le monde d'ailleurs, et pas simplement sous l'occupation nazie. Pour lui, l'oubli est inacceptable. Le penseur du temps s'insurge contre l'action qui pourrait atténuer justement avec le temps l'horreur insoutenable d'Auschwitz.
Oui, bah ça c'est la grande notion d'imprescriptible qui est bien sûr qu'on connaît aujourd'hui dans son caractère juridique, mais elle a aussi une très grande définition philosophique chez Jean Kelevitch. C'est ce qui ne passe pas, ce qui ne doit jamais passer. Alors il faut bien l'entendre parce qu'il s'agit pas du tout, c'est ni la rancœur, c'est ni le ressentiment, ce qui est pas simple hein, avec Jean Kelevitch, parce que lui-même racontait que sa relation au monde, elle était parfois, et on le sait hein, par rapport aux Allemands, il a eu des discours extraordinairement durs jusque tard dans sa vie, mais malgré tout, quand on veut dire c'est ce qui ne passe pas, c'est que nous devons construire l'avenir toujours avec cette conscience que il y a eu quelque chose d'inadmissible et ça doit nous aider à construire, hein, à dessiner l'avenir différemment.
Mais alors pourquoi penser autant au pardon ? À la notion de pardon quand on est le penseur de l'imprescriptible.
Mais parce que, si vous voulez, d'abord, c'est une des grandes, grandes questions philosophiques, la question du pardon, avec clairement cette question de qu'est-ce que le pardon ? Oui. Est-ce que le pardon, c'est de pardonner l'impardonnable ? Et si je pardonne que ce qui est pardonnable, est-ce que c'est vraiment du pardon ?
C'est quelque chose sur lequel a travaillé aussi l'un de ses autres contemporains, qui est Jacques Derrida.
Ben voilà, ça a été...
Pardonner l'impardonnable.
Pardonner le...
Ça semble contradictoire.
Oui, mais pour Derrida, c'était clairement la seule condition du pardon, c'est-à-dire son inconditionnalité. Si vous me faites du pardon où à chaque fois ce qu'on peut pardonner en fait est pardonnable, qu'est-ce que c'est que cette histoire de pardon ? Et puis, versus ça, vous avez Jean Kelevitch qui, lui, affronte non, la question d'une conditionnalité du pardon qui est l'imprescriptible.
Oui.
Et donc c'est ça, hein, c'est, il vient poser que non, il y a des choses, le pardon est
impardonnable.
Et il vient le poser au nom d'une morale. Et je pense que ce qui est très complexe dans la philosophie et puis dans la vie, c'est que les deux ont raison, hein. Les deux, encore une fois, selon les circonstances, racontent quelque chose de la vérité de l'être.
Et quand vous dites que c'est parce qu'il y a des choses impardonnables que la morale existe, ça induit un très grand nombre de comportements. Il y a l'un des très grands penseurs de la morale, qui est Emmanuel Kant. avec l'impératif catégorique, et même si on remonte plus loin, il y a les commandements divins, ceux qui sont transmis à Moïse, « tu ne mentiras point ». Et lui, justement, quand vous parliez du pur et de l'impur, il dit « mais si, il faut mentir, si la Gestapo vient frapper à votre porte et vous demande s'il y a quelqu'un qui est caché dans votre maison, il faut lui mentir », là où Kant, par exemple, dit qu'il n'y a pas de droit de mentir, même par humanité, même quand on est animé par la meilleure des intentions.
Oui, mais c'est parce qu'encore une fois, si vous voulez, on revient sur la quodité et pas la quiddité. Ce qui intéresse Jean Kelevitch dans La Vérité, c'est pas ce qui est dit, c'est ce qui va se produire avec cette vérité. C'est le quod derrière la vérité. La vérité, pour quoi faire? À qui je dois la vérité? Au nazi qui vient me demander? Je ne lui dois aucune vérité. La vérité, elle est circonstancielle. Elle se joue aussi dans un jeu interactif de relations. Donc c'est ça qui est pertinent, encore une fois. C'est que on ne connaît pas la vérité a priori.
Dans l'instant, l'homme peut échapper à la pesanteur, à la finitude, à la conscience de la mort. Et à l'inverse, il ne peut pas, il ne doit pas échapper à l'imprescriptible. Ça, c'est un autre de ces paradoxes. C'est une manière aussi de comprendre la tension que lui vit, éprouve dans sa chair, mais qu'il nous renvoie au visage.
Oui, et puis ça, voilà, ça raconte, je dirais, tout ce mélange de gravité et de grâce. C'est-à-dire que, et encore une fois, on retombe sur ce je ne sais quoi et ce presque rien. Il y a chez Jean Kelevitch cette histoire de l'état de grâce, de la possibilité de s'échapper, et en même temps, il y a une conscientisation extrême de l'assignation à l'engagement, la responsabilité, et donc d'une certaine manière, quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec la liberté.
On va l'entendre. Le temps qui émousse toute chose, le temps qui travaille à l'usure du chagrin comme il travaille à l'érosion des montagnes, le temps qui favorise le pardon et l'oubli, le temps qui console, le temps liquidateur et cicatriseur n'atténue en rien la colossale hécatombe. L'imprescriptible, c'est le râle. Pour définir ce qu'est l'imprescriptible, il prend une image que vous qualifieriez comment? Une image
musicale.
Physiologique ou musicale?
C'est-à-dire qu'on entend encore un son, on entend quelque chose qui gronde, on entend aussi le râle du ventre qui fait mal. C'est-à-dire, voilà, on entend un éprouvé. Nous sommes des corps qui devons ressentir cette blessure. C'est comme si vous voulez, l'imprescriptible, c'est comme si c'était un concept qui a une capacité traumatique, qui a une capacité de faire blessure.
Oui.
C'est une manière de ressentir de façon très très forte quand on dit tiens, l'imprescriptible, on peut pas simplement comme ça l'énoncer comme ça. Il faut tout d'un coup l'incorporer.
Oui, il faut l'incorporer, il faut le ressentir, il faut le vivre, et non pas uniquement
là, dit,
faire une notion juridique pour qualifier des crimes contre l'humanité.
Voilà, tout d'un coup c'est ça va produire une posture, ça va produire un éthos. Un éthos, c'est éthique, mais c'est-à-dire une manière de tenir mon corps.
Je travaille pour le 21e siècle. Ça pourrait être la morale de l'histoire, ça vous fait rire.
Oui, ça me fait rire,
Fleury, mais c'est une phrase qu'a souvent prononcée Vladimir Jean Kelevitch. Alors, qu'est-ce qu'il nous a légué? Et qu'est-ce qu'elle veut dire?
D'abord, juste, qu'est-ce qu'elle veut dire? Parce que elle est géniale, cette phrase. Mais dans un premier temps, c'était aussi une boutade, parce qu'il estimait qu'il n'était pas assez reconnu de son vivant. Donc, il a pris un peu de panache en disant je travaille pour le 21e, de toute façon. Et il avait bien raison. Bon, mais ça dit aussi que les concepts des grands philosophes travaillent toujours pour le siècle suivant. Donc c'est une vérité de tous les grands philosophes. Et c'est particulièrement vrai, je pense, aussi de Jean Kelevitch, qui est cet être, si vous voulez, de l'incertitude, des effondrements, des apparitions disparaissantes, qui correspond, je dirais, au monde d'aujourd'hui, qui se fracasse un peu à quantité d'endroits. Donc là, c'est le philosophe de l'humilité, c'est le philosophe, d'une certaine manière, aussi d'une forme de sobriété.
D'un
monde incertain, d'un monde qu'il faut préserver, d'un engagement qu'il faut sans cesse et sans cesse alimenter. Je rappelle, chez Jean Kelevitch, l'éthique, c'est ce qui est fait, reste à faire. Allez.
Ce qui est fait, reste à faire.
Voilà.
Et rappelez-nous, le printemps.
Chez Jean Kelevitch, c'est ce qui est fait, reste à faire. Et donc, pour cela, ne ratez pas votre unique matinée de printemps.
Merci infiniment, Cynthia Fleury. Philosophe, une série d'Ali Badou préparée par Maëlle Polsinelli, réalisée par Séverine Cassard. Prise de son, Juliette Petit. Mixage, Basile Bocquer et Baptiste Collion. Coordination, Fanny Boyon. Philosophe, un podcast original de France Inter.